Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Messieurs, j'espère que tout roule. Dites-moi, prochain épisode, j'aimerais bien faire un sujet dont on a parlé souvent, mais qu'on n'a pas encore calé, sur la retraite, du moins la retraite sportive et cette fameuse petite mort. Edouard, on en a souvent parlé en off. Et je pense qu'il y a des vrais enseignements à tirer de ton expérience et de celle de mon pote Ricky Fati, qui est un plus jeune retraité. Et j'aimerais avoir vos avis, vos retours d'expérience à tous les deux sur comment ça se passe quand on arrête une carrière de footballeur professionnel et qu'on se lance dans une seconde carrière. J'ai eu Ricky, je crois qu'il est dispo mardi, donc si vous êtes chaud et dispo, on peut caler ça la semaine prochaine. Vous me dites, ciao.
Ouais, toi t'es pushy hein, toi avec ce sujet. Hein. Tu veux savoir s'il y a une vie après la mort, c'est ça? Tu veux savoir si on ressuscite? Je crois que je te l'ai montré déjà, non? écoute, partant, super si Ricky l'est... Il est dispo mardi, moi ça me va, je suis dispo aussi, donc je me ferai plaisir, je me ferai un plaisir de répondre à tes interrogations, ou à répondre à nouveau à tes interrogations, à vos interrogations. Bise.
Alternative football. Alternative football. Alternative football.
Beaucoup en parlent.
On parlera de l'effectif, de la gestion de l'effectif.
Comment ils jouent les deux contre les gars.
Mais peu le connaissent vraiment.
Parce que tu sais que malheureusement, il n'y a pas que le foot dans la vie.
Alternative Football. Alternative Football.
Le podcast hors terrain de SoFoot, présenté par Édouard Cissé et Mathieu Lille-Palette, avec l'appui de la conscience Maxime Marchand.
Très heureux de tous vous retrouver pour un épisode exceptionnel, de par la qualité de l'invité, qui est aussi un ami et qu'on va vous présenter dans quelques secondes, mais aussi de par la qualité. De mes co-hosts, de mes co-podcasters.
Moi, je pensais que tu allais dire par rapport à la thématique. Mais...
Bah, on y vient.
Okay.
On y vient. Parce qu'on a effectivement une thématique proche du terrain, une fois n'est pas coutume. Et surtout, on a des gens très bien placés pour parler de la carrière et de l'après-carrière, puisque c'est ce dont il s'agit, puisqu'on a à nous quatre dans ce studio près de 1000 matchs en pro. Après, la répartition, elle n'est pas extrêmement... elle n'est pas égale, hein, mais c'est un fait. Tout ça pour vous dire qu'on reçoit avec grand plaisir Monsieur Ricardo Fati. Salut Ricky.
Salut Mathieu, salut messieurs.
Salut Ricky, on t'appelle Ricky ou Ricardo?
Ouais, j'aime bien Ricky.
Ricky.
Ouais, Ricky, c'est bien, c'est plus court, c'est...
Ok, ça me va là.
Intimiste.
Et pour les assidus du podcast Ballon Main Corps, c'est même Ricky Friandise.
Son
surnom.
Ah, c'est quand on va plus loin dans l'enfance, dans la jeunesse.
Il racontera l'anecdote.
Dédos, d'accord, okay.
Et donc, bien sûr, je suis entouré de monsieur Cissé. Comment allez-vous, monsieur
Cissé? Ça va très bien. Quand je te vois, bah, écoute, je suis fou de joie.
Tu sais que...
Et quand j'entends ta voix.
c'est pas
mal. Non, je suis content de te voir.
Ça fait longtemps que je sais pas. Comme toujours.
Ouais.
Comme toujours. Et monsieur Marchand, la conscience.
Maxime.
Bonjour.
Comment ça va, Maxime?
Pas mal. Surtout ouais. Quand je vois Edouard manger un pain en raisin.
Un pain en raisin. Ouais. Ouais.
On a eu un petit débat viennoiserie avant oui. que.
Juste avant.
Avant de lancer le
bientôt micro. Un podcast viennoiserie.
Alors, rentrons donc dans le vif du sujet avec Ricky, la traditionnelle question de d'ouverture.
Non, mais d'abord, c'est quoi le thème? Tu l'as dit le thème?
Petite mort, j'ai... la retraite, petite mort ou seconde vie.
Ok, d'accord.
Tu as raison, je ne l'avais pas dit, j'avais fait référence à l'après-carrière, mais on a...
Je reviens à laquelle je suis, on suit, nous. Ricky, il n'a rien voulu dire, mais...
Et donc, puisque tu suis, la traditionnelle question d'ouverture...
Ah, je la pose, celle-là?
Ah oui,
c'est
la tienne.
Non, je n'ai pas posé la même, d'habitude je dis, c'est quoi ton lien avec le football, mais...
Il est un peu obvious, ce lien avec le football.
Ouais, le gars a quand même un lien avec le football. C'est quoi tes premiers pas avec le football?
Ouais, les premiers pas avec le football, hein, c'est comme...
énormément de jeunes, hein, de quartiers. Moi, je suis originaire du Val-de-Marne et de l'Essonne. J'ai grandi entre Chevilly-Larue et Épinay, sous Sénart. Et puis, le contact avec le football est vraiment naturel. Naturel avec les potes en bas des tours. Taper le ballon, mon papa, ancien joueur amateur, donc je partais jouer, je l'accompagnais aussi, ce qu'il jouait aussi. Mmh. Il jouait à l'US Métro, lui en bon contrôleur RATP, donc forcément il jouait dans,
ah oui,
dans le club.
Équipe Foot Corpo.
Exactement.
Ah, c'est good,
US Métro, et donc moi j'ai pris ma première licence à l'US Métro, d'accord, à la Croix-de-Bernie, à Antony.
T'avais les tickets gratos?
Ouais, bah tu sais à l'époque.
Mais c'est pour ça que t'as fait aucune contravention, c'est logique.
Bah pour l'anecdote, bah à l'époque, tu sais, mon père il était années 90, hein, mm-hmm, il ramenait à chaque fois des grands rouleaux de métro, et donc nous on coupait et on passait comme ça. En fait.
Ça, c'est cadeau ça.
Le bus métro, et d'ailleurs moi je prenais le métro et le bus à 9 ans, 8 ans, donc bref.
Cadeau.
Et donc voilà, de fil en aiguille, voilà, on grandit, on commence à prendre du volume, on commence à prendre du plaisir, on commence à avoir des idées, des rêves de footballeur, et puis de fil en aiguille, j'ai eu la chance avec mon frère d'avoir intégré l'INF Clairefontaine, donc assez jeune, hein, à 13 ans. Et puis voilà, après, pour ceux qui me connaissent, ils connaissent mon parcours, hein, une assez longue carrière, pas mal de clubs, pas mal de pays, et puis voilà, après, voilà, pour
baigner dans le foot, quoi.
Exactement, pour revenir à ta question, c'est voilà, le foot, c'est...
C'était logique.
C'est pour moi, voilà, très grande logique, ouais.
À quel point, parce que tu mentionnais ton grand frère Doudou, à quel point son influence t'a poussé vers le foot, ou est-ce que de toute façon qu'il ait réussi ou pas, lui, t'aurait quand même poussé cette voie-là? Est-ce qu'il y avait un lien direct avec le fait que Doudou soit footballeur, Jacques, et puis qu'il entame un...
Je répète, Jacques Fati.
Jacques Fati, ouais.
Doudou,
ouais,
c'est parce, ouais, que vous êtes private.
Ouais.
Private.
Wow, non, après, Doudou, c'est son vrai prénom aussi. Hein.
C'est vrai?
Doudou Jacques, Jacques Doudou.
Jacques Doudou, ouais. Ok, very good. Mais Jacques Fati, je pense que, ouais, tous les, ouais, millions de poditeurs à l'international, je connais Jacques Fati.
Parce que on va le sous-titrer. ouais, donc ma question, c'est... voilà, est-ce que tu as suivi un peu le grand frère, et comme il était parti pour faire une carrière, tu as emboîté le pas, ou est-ce que tu penses que si ça n'avait pas été son cas, toi tu aurais quand même essayé de poursuivre ce chemin-là?
Non, pas du tout. Hein. Ouais. Déjà, il faut que tu saches que mon frère, il a pas commencé par le foot. Ouais. C'était un pongiste, il jouait au ping-pong quand j'étais, ouais, plus jeune, donc il a eu aucune influence.
On aurait pu avoir les frères Fati au ping-pong avant les frères
Lebrun.
Il était vraiment fort. Il aurait sauté sur la table aussi en criant.
Sincèrement, il était très fort, il était classé et tout en jeune. Ouais. Et justement, bah, suite au divorce de mes parents, donc on a quitté Chevilly-Larue, c'est une, d'accord, ville très réputée pour le ping-pong justement.
D'accord.
Bah, c'est de là-bas que devenait, je sais pas si vous connaissez à l'époque, Jean-Philippe
Gasset. Oui, bien sûr, c'est la sommité.
Ouais. Je crois qu'il était en club à Chevilly-Larue et tout ça. Enfin, c'était vraiment, c'est une ville de pongistes, une ville de ping-pong. Et du coup, on a divorcé, on est parti dans 91, enfin, mes parents ont divorcé. Ouais. Je suis parti dans 91 à Épinay-sur-Seine, et c'est là-bas que mon frère s'est mis au foot.
D'accord.
Relativement tard, entre guillemets, donc à 12-13 ans. Ouais. Et après, pour lui, tout s'est enchaîné. Équipe de Clairefontaine, équipe de France, équipe de jeunes, tout ça. Et il a été une influence pour moi, ouais, quand j'ai commencé à intégrer le centre de formation, tout ça, être en pro, oui, là, forcément, il m'a beaucoup conseillé, mais ma passion, c'était plus mon papa et puis mes potes du quartier, quoi.
D'accord, donc une influence plus générale. Ouais. Alors, on va forcément avoir des petites questions sur le terrain, parce qu'on a la chance, je le disais, d'avoir à vous deux quasiment 1000 matchs en pro, donc il y a des choses qui vont intéresser côté terrain. Mais donc le sujet, c'est plus ce qui s'est passé après. Et pour ça, Monsieur Cissé, aujourd'hui, vous êtes presque plus invité,
ouais, j'ai que,
je peux que co-host.
J'ai vu l'accueil que j'ai reçu aujourd'hui.
On reçoit un meilleur accueil quand on est invité.
Du café, tout ça, donc j'adore.
Et donc, ce qui est, je pense, intéressant, et c'est ce qu'on se disait quand on en parlait un petit peu en préambule, c'est qu'on a un très jeune retraité, puisque Ricky t'a arrêté en fin de saison dernière.
Officiellement, oui.
Ouais. Et un moins jeune retraité. Parce que toi, ça va faire 2012.
Officieusement.
Ça fait officieusement.
Non, ouais, il y a un 2012.
Ça va faire un peu plus de... Donc, ça fait presque 12 ans.
Oui, 12 ans.
Donc, première question commune, et je vous laisse choisir qui répond en premier. C'est comment la retraite?
Alors, c'est comment la retraite? Ça fait bizarre. Ça fait bizarre. Après, je suis... Par rapport à Edouard, forcément, je suis un peu mal placé pour en parler parce que c'est tout frais. J'ai pas encore assez de recul, hein, pour avoir un avis tranché sur, entre guillemets, cette retraite sportive. C'est un peu ambivalent parce que on en parlait un peu en off. T'es un peu soulagé d'arrêter parce que voilà, tu peux penser à autre chose, mais justement, le thème, c'est on parle de mort. Il y a quelque chose qui meurt en toi, ça, c'est le cas.
Toi, tu le ressens?
On le ressent tous. Je pense qu'on l'a tous ressenti à un certain niveau. Bon, je vois Edouard déjà, il hoche la tête. Donc,
c'est ce qui va être intéressant. C'est
je sais
qu'il a une
vision souvent
assez avis particulière.
Part, ouais.
On va pouvoir en discuter. Mais je pense qu'on on ressent tous plus ou moins un manque. Après, la question, le sujet, c'est vraiment de savoir à quel point ce manque est grand, en fait. Si vraiment il est vraiment dommageable pour toi, il est vraiment très important. Forcément, moi, j'ai un sentiment un peu de nostalgie. Pas de regret, parce que j'ai le sentiment d'avoir fait ce que j'avais à faire dans le milieu, même si j'aurais pu prétendre à mieux, peut-être, j'imagine. Mais voilà, un peu de nostalgie, des souvenirs, bien sûr, mais aussi la satisfaction du, entre guillemets, du devoir accompli, et de profiter un peu de mes... Après, bon, la même rengaine, la même routine, profiter de la famille, profiter des enfants, avoir un peu de temps pour soi. Mais après, moi, j'ai eu la chance de vite embrayer sur autre chose derrière. Donc ça, je pense qu'on en reparlera. Ouais. Mais voilà, pour le moment, la retraite se passe plutôt bien.
Putain, on va tirer le fil de ce que tu as dit. Hein. C'était une petite question d'intro. C'est bien parce que tu as touché que des points qu'on a prévu d'évoquer.
Ouais, il est bon.
On apprend des plus grands, Edouard, t'inquiète.
Je passe le ballon à monsieur Cissé.
Moi, à 34 ans, j'avais vraiment envie d'arrêter. Hein.
Ouais.
Pas envie d'arrêter, mais c'est surtout je ressentais plus quand je mettais le maillot le samedi soir. J'avais plus la même excitation.
Ok.
C'est violent. Hein. Donc
ouais.
tu rentres sur le terrain, t'es avec tes potes, t'as les supporters, mais ça te galvanise plus. Et c'était mon année à Auxerre. Et du coup, tu dis, oh, c'est peut-être Auxerre, c'est peut-être la ville. Mais la vérité, c'est pas ça, parce que même les gros matchs, tu vas au parc, avec le maillot d'Auxerre, t'as plus cette effervescence. Et là, quand t'es honnête avec toi, j'en parlais avec mes potes, je me dis, c'est fou quand même. Le parc ne me fait plus rien. C'est que t'es lassé. Et le corps, physiquement, j'étais bien. Donc quelque part, tu te dis, tu commences à te poser la question. J'ai une anecdote, je joue à Auxerre, match à 19h. À 19h05, je regarde la pendule, je me dis, ça fait 5 minutes que le match se joue. Alors si, là, comme ça se passe, il ne va pas y avoir trop d'arrêts de jeu, 21h, le match se termine, 21h30, je me douche, 22h, je suis sur l'autoroute, je rentre à Paris, et je venais d'avoir un enfant, tu vois, mon troisième gars. Je me suis dit, je voulais tellement passer plus de temps avec ma famille que jouer au foot. Là, j'ai fait warning. Ça veut dire que c'est fini.
C'est mort.
Parce que quand t'es plus motivé...
Le foot n'était plus vraiment au centre des
attentions. C'était plus numéro un.
Ouais.
La famille était vraiment largement au-dessus, c'était ma priorité par rapport au foot. Et objectivement, en étant honnête, je me suis dit, je peux pas continuer.
Qu'est-ce qui te manque quand tu disais j'ai de la nostalgie? C'est quoi qui te manque?
C'est un peu les mêmes choses, je pense, que tous les joueurs pensent. C'est l'odeur du vestiaire, la pression d'avant-match. Justement, moi par contre, cette excitation, je l'avais toujours. Je l'ai toujours eu. Moi, c'est plus, on va dire, peut-être le côté physique et aussi au côté des opportunités que j'avais à côté qui m'a fait arrêter. Mais non, moi, c'est justement moi ce qui me manque, c'est justement cette excitation qu'Edo n'avait plus et cette envie de ce quotidien que j'avais depuis l'âge de 13 ans en entrant avec La Fontaine. Donc, c'est ça. En fait, après, je ne sais pas si c'est l'habitude ou la peur de ne plus avoir cette routine-là qui te retient un peu. Mais encore une fois, moi, la chance que j'ai eue, c'est que j'ai eu cette bascule assez rapidement et j'étais assez lucide sur certaines choses, quoi. Après, je pense que c'est dû à l'éducation, c'est aussi dû aussi à comment tu évolues dans ta carrière. J'ai su qu'il y allait avoir une fin. Et j'ai décidé d'arrêter, moi, parce que je sais que derrière, j'avais des solutions, entre guillemets, de repli. J'avais des perspectives d'avenir, j'avais aussi des enfants, bien sûr, ma femme, tout ça. Et donc, ça va que ma fin était plus, on va dire, plus smooth, plus en délicatesse, plus
mais
en douceur.
Mais sans repli, tu veux continuer? Tu t'aurais continué?
Sans repli, je pense que j'aurais poussé.
Ah ouais.
Et il a le danger, tu vois, il a le problème.
Et moi, je te jure, et quand j'arrête, pour tout dire, quand j'arrête, il me reste encore une année de contrat avec Auxerre. D'accord.
Ah ouais, ok.
Et je sais vraiment pas ce que je vais faire. Donc, c'est-à-dire, j'arrête du jour au lendemain. C'est-à-dire, mes conseillers me disent, mais pourquoi tu as arrêté?
Ouais.
Parce que j'ai plus envie. Mais d'accord, mais attends. Tu vois les conseillers.
Mais nous, on est en 20
jours. Non, mais attends. Donc, tu vois, quand tu descends en Ligue 2, ton salaire est divisé par deux. Et donc, du coup, ça restait un gros salaire pour Auxerre. Et je vais voir les dirigeants d'Auxerre, je dis, je vais arrêter. Ah, mais d'accord, ok, Edouard. Bah, ça leur permettait d'économiser ce salaire-là.
Bien sûr.
Donc du coup, après, j'arrête. J'ai plus de contrat, mais je pars en vacances à la Baule. Je kiffe le mois d'août à la Baule, mais c'est extraordinaire quand même la Baule. Hein. Mes enfants
c'est
peuvent
vrai
jouer
que
avec d'autres enfants.
En tant que footballeur, on connaît pas le mois d'août.
Le mois d'août, on le connaît pas.
C'est ça.
Et du coup, pendant tout le mois d'août, les gens me disent « Alors, tu vas faire quoi ?» Bah, je sais pas. Mais ma femme voyait que je m'entraînais pas du tout. Pas de footing, rien, pas de gainage, rien, walou, niette. Je regardais pas de match de foot. C'était plié.
Mais quand tu dis « je sais pas », c'est « je sais pas », un peu, on va dire, en mode tranquille, j'ai le temps, ou en mode
je suis pas
un peu de tension un peu
je veux tellement arrêter. Je te jure, Ricky, je veux tellement arrêter. J'ai plus goût, donc je veux me reposer. Je veux me lever le matin, je veux vraiment me reposer. Et ouais. Puis après, on verra. Mais sauf que c'est tous mes amis qui me disent « Mais attends, Edouard, en août, là, la reprise, tu fais quoi ? Tu fais quoi ?» C'est plus les gens autour de moi qui mettent de la pression que moi-même.
Oui, bien sûr, parce qu'ils t'identifient comme un footballeur, en fait.
Ouais.
Ils te voient comme un mec actif.
Et... Ça m'a déçu. Ils m'ont justement vu comme un footballeur.
Ouais.
Tu vois ?
Ouais.
Donc, j'étais obligé après de leur dire, on reviendra, hein. C'est pas une petite mort. Ouais, mais j'entendais plein d'anciens qui disaient, putain, c'est vrai que moi, ça a été compliqué. Mais d'un autre côté, moi, je dis, oui, mais parce que t'as été blessé. Donc, c'est la blessure qui t'a poussé à arrêter.
Ouais.
Moi, c'est moi, j'ai fait le tour. Donc, quand c'est toi qui décides, tu dis, bah non, c'est pas une petite mort. Tu vois ?
Alternative football. Alternative football.
Vous dites un truc intéressant dans votre échange là, c'est que toi, Ricky, t'as parlé des autres. Tu dis ouais, les gens te voient comme un footballeur.
Mm-hmm.
Mais du coup, l'après carrière ou le moment d'arrêter ou de continuer ou le débat, est-ce qu'il est aussi un peu vecteur des autres? Tu vois, Edouard, tu parlais de tes conseillers, mais aussi de la famille qui peut parler, qui peut dire, tu vois, mais c'est bon, moi, je suis allé vivre en Turquie, je suis allé vivre aussi en Turquie ou en Angleterre, etc. Maintenant, j'ai envie de me poser. Forcément, la vie de famille, ça compte dans la réflexion. À quel point on peut être, à la limite, froid, un peu comme tu l'as été, sur la décision où on arrête, sur le moment où on arrête. Est-ce qu'on est capable vraiment d'avoir cette clairvoyance de dire c'est maintenant et c'est pas parce qu'un tel ou un tel, aussi important soit-il, me disent que c'est le moment de passer à autre chose ou de continuer?
Cette clairvoyance-là, elle est très très rare dans le football. De toute façon, on le voit. Déjà, là, ce que Edouard me dit, nous dit, ça nous surprend tous. Pourtant, c'est très clairvoyant. C'est vraiment... il est honnête avec lui-même. Il connaît son être. Il connaît vraiment ce qu'il est. Donc, c'est fort pour moi.
Ouais.
Et d'ailleurs, t'as qu'à voir les fins de carrière de chacun. On parlait de mort, justement. Quand tu vois... quand tu me parles de fin de carrière, j'ai une idée en tête. Enfin, j'ai une image en tête. C'est la fin de carrière de Totti, par exemple. Quand Totti, il arrête. Pourtant, il a 40 ans. Hein.
Ouais,
il arrête à 41 ans, le mec. Mais tout le monde pleure. Ambiance d'enterrement. Ambiance de mort. Et le mec, il vient, il pleure. Ok, les émotions, la nostalgie, tout ça, mais tu sens que le mec, il se dit « Ah, mais je vais faire quoi demain ?» Et même, on le voit encore tout de suite, tu sais,
on l'avait croisé.
On voit qu'il a un peu de mal à se reconvertir, entre guillemets, ou à se trouver en tant qu'homme. Il a divorcé récemment, tout ça.
Ouais.
Ça prouve que, ouais, on est vu comme des... Aussi fort que tu sois, que tu puisses être, t'es vu comme un footballeur, malheureusement. Et toi-même, tu te convaincs. À toi-même, je suis qu'un footballeur.
Ouais.
Et c'est là la peine, c'est là en fait le trick. Quoi.
Et l'exemple de Totti, là, c'est intéressant parce que l'année dernière, on avait été voir le Fatico, un des nombreux Fatico qui sont les matchs entre les équipes dans lesquelles Ricardo est passé. Et donc, on va voir Roma-Bayer, il a l'occasion de croiser Totti. Et donc, Ricardo a échangé avec lui. Et puis, donc, je pose naturellement la question à Ricardo et aux trois personnes qui étaient là. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait, Francesco Totti? Et effectivement, un joueur de cette magnitude, avec l'impact qu'il a eu sur cette ville et ses joueurs, on a l'impression qu'il ne peut pas se réinventer. Parce que, en fait, ça reste un symbole de la Roma au-delà de son rôle de joueur. Donc,
Il ne s'appartient plus, en fait.
Ouais, c'est
déjà, quand tu es footballeur, tu ne t'appartiens pas. C'était le débat qu'on avait eu avec Edouard sur le fait que tu as des gens qui te regardent et qui jugent qui tu es et qui te mettent des notes qui te jugent. Donc, du coup, en fait, tu ne t'appartiens plus. Tu es juste résumé à toi en tant que footballeur et non pas toi en tant qu'être humain et même ton entourage aussi. C'est-à-dire que j'imagine pour beaucoup, quand t'es footballeur professionnel, du coup, tu gagnes. Ça doit être très rare le nombre de footballeurs professionnels dont la femme ou l'autre personne avec qui ils vivent gagne plus qu'eux. Du coup, souvent, le noyau familial est
déplacé.
Fonction de toi et en fonction de ta vie de footballeur. Et à partir du moment où tu t'arrêtes en tant que footballeur, c'est toute ta cellule familiale et même tes parents ou tes oncles, enfin les oncles ou les frères et sœurs qui aussi te voient autrement. Tu vois, tout était un peu autour de cette carrière parce qu'ils venaient te voir au stade. Donc ça transforme toute la famille au sens large, tu vois.
Bah c'est le cas pour peut-être on discasse un peu, mais par rapport aux joueurs africains ou des joueurs qui viennent de quartiers sensibles, tu deviens en fait le chef de la famille.
Clairement, pour moi, non.
Tu vois, tu deviens. Je sais pas le mot en français, mais en anglais on dit provider.
Ouais, c'est ça. Ouais.
T'es le mec qui
fournit. T'es le chef de famille.
T'es le chef de famille. T'es le jeune. Ça. Donc voilà, on te voit comme un footballeur, mais on te voit aussi comme celui là, comme celui qui
assume,
assume tout ça. Mais quand ça se termine, bah t'es plus rien.
Ton statut, ouais. Ton statut, il est.
Qui es-tu en fait? Et c'est la vraie question en fait. C'est pour ça qu'on parle de mort. C'est ça. Ton statut se meurt. Et tu te meurs avec, en fait. Et tu meurs avec. Et encore une fois, je me répète, mais ce que Edouard disait, c'est fort. Parce que voilà, son statut de footballeur est mort, est fini. Mais voilà, l'homme est toujours là, en fait. Et c'est ça qui est fort.
Et ce qui est hyper intéressant dans ce que tu dis, Edouard, c'est que l'une des questions qu'on voulait vous poser aujourd'hui, c'est à partir du moment, à partir de quel moment tu le prépares. Et tu vois, moi j'ai l'exemple de Ricky parce que ça fait quelques années qu'on se connaît et que donc on parlait un petit peu de l'après-carrière avant qu'il arrête et voilà les possibilités dont il nous parlera ce qu'il faut aujourd'hui. Ça fait quelques années qu'il a allumé des mèches sur les trucs qui l'intéressent, etc. Mais toi, ce que tu nous dis en gros, c'est que t'étais sur le terrain. Sur cette dernière saison, tu t'es rendu compte que ça était fini. Mais tu n'avais pas particulièrement préparé l'après.
Non. Non, mais j'ai envie de dire, je ne l'avais pas préparé, mais j'avais aussi préparé. Dans le sens où, dès 19 ans, quand j'ai commencé ma carrière au Paris Saint-Germain, il y a Patrice Loco, tu te souviens, qui fait un pétage de plomb.
Bah, pour la petite histoire, ça a été mon premier maillot.
Ah ouais ?
C'est Loco, un de mes premiers, ouais.
Quand il jouait à Nantes ?
Quand il était au PSG.
Au PSG.
Ouais,
c'était avant le drame.
C'était avant le drame, en effet. C'était mon oncle qui m'avait offert, je me rappelle.
Et je me dis, le mec, il est sur le toit du monde, il lui arrive ce qui lui arrive. Ouais. Et puis il fait une descente aux enfers.
Incroyable.
D'accord.
Ouais.
Et très tôt, je me suis dit, ça va vite en fin de compte le foot. Très vite le foot. Après, il y a aussi, cette même année, je fais la connaissance de Florian Maurice.
Ouais.
Qui est sur le toit du monde et qui se blesse qui revient de blessure. Tu vois, il s'était rompu le tendon d'Achille, 6 mois sur les sidelines, alors que c'était le futur JPP. Il a eu du mal à revenir après. Donc très tôt, je me suis dit, waouh, en fin de compte, ça peut s'arrêter très vite. Donc, plus les contrats, que c'est 3 ans, 4 ans. Et tu te dis, mais attends, si au bout des 3 ans, tu fais pas beaucoup de matchs, mais au bout des 3 ans, tu fais quoi? T'arrêtes. Donc très tôt, je me suis dit, la précarité. Précarité par rapport au contrat et précarité par rapport à la blessure. Parce que notre outil de travail, c'est le corps.
Ouais.
Et à l'époque, les croisés, c'est vrai que ça pouvait te mettre, tu te faisais les croisés, limite ta carrière, il y a 20 ans. J'ai l'impression que c'est pas il y a 50 ans, mais bon. Non, toi, t'as pas connu ça. Toi, t'avais connu, t'étais 10 ans de plus jeune que moi. Mais globalement, les croisés, ça pouvait te mettre 8 mois, 1 an, une saison, elle était pliée.
Ouais.
Donc quand t'as signé 3 ans, une saison morte, une saison pour revenir, il te restait pas grand chose pour prouver. Donc très tôt, j'ai compris que. Ah ouais. Donc j'étais un footballeur quand j'avais le maillot et en dehors j'essayais de me former à plein de choses. Donc j'étais curieux, j'ai toujours gardé ma curiosité. Et Ricky, moi j'ai pas fait de centre de formation.
Si, je sais.
Donc du coup, ça m'a permis d'être l'écoute. Super.
L'écoute
de
podcast.
C'est ce qui m'a permis d'être toujours, tu vois, ouvert. Quand vous êtes dans un centre de formation, on fait comprendre, tu vois, foot. Pense au foot. Si tu penses pas au foot, c'est pas bien.
Conditionné.
Ouais. Conditionné. T'as pas été bon, c'est normal parce que t'as pas mangé tes carottes râpées, t'as pas pensé au foot. Moi, franchement, je pensais à autre chose. Et j'ai toujours été curieux. Du coup, il y a beaucoup de sujets qui m'intéressaient et ça m'a toujours permis de pas m'interdire de penser à autre chose. Donc, j'ai jamais été footballeur.
Mais toi, t'as eu quand même cette lucidité très très jeune en fait de cela.
Et pendant longtemps, ça m'a joué des tours. Hein. Parce qu'on me prenait pour un fumiste. Toi, t'aimes pas le foot. Toi, tu penses pas au foot. Tu vois ce que je veux dire? Ça m'a joué des tours. Mais avec le temps, je me dis, je suis content d'avoir été perçu comme un fumiste, d'avoir donné l'image d'un mec qui s'en foutait du foot alors que c'était faux. Parce que le foot, ça m'a sauvé. Hein. Moi, je viens d'un background où, franchement, si j'ai pas le foot, on n'est pas là. Hein, je suis pas là. Hein. Donc, ça a été vraiment un ascenseur social. Donc, c'est très important pour moi. Mais je savais que pour durer, j'avais besoin de d'autres un skill set, de rajouter des trucs dans mon panier.
Ouais, bah après, encore une fois, c'est là le problème, c'est que je pense que, bon, j'ai pas les chiffres exacts en tête, mais je pense que 80-90% des joueurs sortent de son formation. Ouais. Donc forcément, comme Edouard l'a dit, on est conditionné à être footballeur, on est conditionné à réussir. Et donc, en plus, moi, je suis bien passé pour en parler, parce que moi, je me considère comme un pur produit.
Toi, ouais, t'es Pierre Fontaine, c'est l'usine.
13 ans.
Tac.
C'est pas l'usine, mais c'est. Voilà,
quand
c'est...
je dis l'usine, c'est pas péjoratif. Oui, c'est-à-dire que vous êtes, c'est la crème de la crème.
Ça y est, c'est parti,
que c'est l'élite.
Le Harvard du
bien
football.
Bien sûr, c'est l'ENA du football, j'ai toujours dit ça.
C'est ça, et du coup, bah, on est conditionné dès nos 13 ans, donc forcément, on ne pense à rien d'autre. Moi, encore une fois, j'ai ma longue carrière. En fait, le souci pour un footballeur, c'est qu'on a le sentiment que ça ne va jamais s'arrêter, en fait. Peut-être que tu parles de contrat de 3 ans, 4 ans. Encore une fois, tu as eu cette lucidité en disant « Ouais, si au bout de mes 3 ans, je n'ai pas de contrat, bah, c'est fini, donc je fais autre chose. » Non, nous, on signe un contrat. « Oh, c'est bon, on est bien, on est tranquille. T'inquiète pas, on aura un autre contrat derrière. Mmh. » Ça va avancer. Puis bon, de toute façon, une carrière, ça finit jusqu'à 32 ans, 34 ans. Ça, c'est les discours des jeunes, hein, encore aujourd'hui. Hein, et je suis bien placé pour le savoir. Et pour ma part, moi, ce qui m'a sauvé, parce que moi je dis maintenant avec du recul, c'est comme ça que ça donnait. Hein. Moi, je pensais comme ça aussi. Moi, c'est bon. En plus, je suis fit. J'ai pas de problème. Bon, j'ai quelques pépins physiques, quelques blessures, mais j'étais bien physiquement. J'ai beaucoup voyagé. J'avais pas mal d'intérêts de club. Je savais que je pouvais voyager. Donc, forcément, j'allais avoir du marché, entre guillemets. Et moi, ce qui m'a sauvé, en fait, c'est le Covid. Moi, ce qui m'a sauvé, c'est 2020.
Ah ouais?
J'arrivais à 33, 34 ans. J'étais en Turquie. Et quand tout s'arrête, je suis chez moi. À rien faire avec mes enfants, ma femme. Je fais quoi en fait? Alors après, moi, j'ai eu de la chance. Je considère que j'étais bien éduqué. En plus, j'ai eu mon frère au-dessus. Donc, ça va. J'ai quand même les pieds sur terre. Mais malgré ça, je me disais, mais en fait, c'est quoi ma vie? C'est être footballeur. Tu vois, il suffit d'un claquement de doigts.
Ça y est.
Il n'y a plus rien. Il n'y a plus de foot. Il n'y a plus de ballon. On fait quoi maintenant?
C'est le divertissement.
C'est mort. J'ai fait. Il faut que je fasse quelque chose en fait de ma vie. Après.
Stop.
Et c'est en fait, c'est vraiment ce qui m'a sauvé parce que je pense que s'il n'y avait pas eu de Covid, j'aurais eu de la même mentale jusqu'à mes fameux 34 ans. Et là, bah, qu'est-ce que je fais? Par contre, là, je serais pas comme Edouard. Je serais en train de trembler, moi. Je pense que je suis en train de trembler du genou. Et du coup, bah, c'est là que je me suis rapproché un peu de d'amis qui sont. On va dire expert en reconversion, notamment Stéphane Erhardt, qui travaille à l'UEFA Academy. En plus, il s'avère qu'on s'est côtoyé en centre à Strasbourg, donc on se connaissait déjà un peu, on a discuté. Bon, qu'est-ce que tu veux faire? C'est quoi tes aspirations? J'ai fait pas mal de tests. Et forcément, moi étant passionné de foot, et c'était plus ou moins mon seul domaine, on va dire, d'expertise, le football, donc voilà, je voulais rester un peu dans le milieu. Je me suis rendu compte qu'il y avait plein de débouchés, plein de diplômes à faire. Donc, c'est là que j'ai commencé à me former pendant que j'étais en train de finir ma carrière. Et c'est pour le moment, c'est là que j'ai vraiment pu faire, on va dire, une fin de carrière, un atterrissage vraiment en douceur. Et j'avais plus de certitude me concernant aussi en tant qu'homme.
Mais il y a un truc, je trouve, qui n'est pas souvent mis en avant. C'est que tout changement professionnel, qu'on soit footballeur ou dans un autre secteur, c'est violent, parce que c'est un saut dans le vide. Même quand tu changes de boîte, moi je le vois du côté corporate, des collaborateurs qui partent, il y a toujours plein de questions. Et là où c'est violent de manière générale, pas que pour les footballeurs, mais pour les sportifs professionnels, c'est que ce qu'ils font jusqu'à la fin de leur première carrière, c'est forcément ultra différent de ce qu'ils font derrière. Ouais. C'est-à-dire que la coupure entre l'activité première qui est le foot ou le sport de haut niveau et ce qui viendra derrière, même si t'es entraîneur ou même si t'es consultant, c'est un set de skills qui est complètement différent. Et on peut penser que c'est hyper naturel d'aller, on en parlera d'ailleurs tout à l'heure, tu vois, d'aller vers le staff ou vers les métiers type consultant. Mais en vrai, même ça, c'est des skills qui n'ont rien à voir. Et d'ailleurs, on le voit avec beaucoup de joueurs qui étaient des grands joueurs et qui derrière ont beaucoup de mal à transitionner vers le métier d'entraîneur parce que pour le coup, c'est complètement différent.
Ou consultant aussi.
Ouais, consultant,
ils sont pas du tout bons à l'antenne. Hein.
Exactement.
Je te remercie, Mathieu.
Non, mais c'est, pour le coup, c'est réel. Tu vois, on a aussi cette impression, parce que c'est un métier surexposé, et ça, on en parle souvent, que ouais, c'est bon, bah, c'est du foot. Il a été joueur, il va savoir en parler ou il va savoir entraîner. Alors que c'est violent. Et je vois, à part des reconversions professionnelles complètes, je dis n'importe quoi, un mec qui est marbrié et qui devient commercial dans la tech, ce virage-là, il est hyper difficile. Et en fait, il vient. il vient se mettre au-dessus de ce dont on parlait tout à l'heure, à savoir le lot d'incertitudes que tu as parce que tu es provider, parce que c'est un métier hyper exposé. Et donc, tu as, comme souvent dans le métier de footballeur, une dimension psychologique qui est aussi pas neutre. Et donc, après cette très longue introduction, la fameuse question à rallonge, est-ce que vous avez, vous, dans vos propres expériences ou connaissances, de gens qui ont été accompagnés psychologiquement, pas nécessairement, je ne veux pas rentrer dans le sujet dépression, quelqu'un qui fait une dépression, parce qu'on a des exemples, on en a parlé après, en fin de carrière, mais accompagnés psychologiquement dans cette route vers l'après-carrière. Est-ce que vous avez des exemples ou est-ce que vous avez connaissance de gens qui ont bossé ça avec des psychologues ?
Non, mais j'ai envie de dire, tu sais, mais même Ricky le dit, là, je trouve que se poser la question à 30 ans, c'est trop tard. C'est avant, en fin de compte. C'est un conditionnement. Et je trouve que c'est assez triste que de réduire le footballeur ou l'après-carrière d'un footballeur à entraîneur. C'est ça,
ouais, hein. Exactement.
Quand les gens me voient, ils me disent « Alors, vous êtes entraîneur ? Vous êtes consultant ?» Bah, malheureusement, je suis consultant. Enfin, malheureusement, non, je suis consultant, mais globalement, quand j'ai arrêté, on me dit « Mais de toute façon, tu vas être consultant ou entraîneur ?» Comme si on avait que ces deux chemins.
Ouais.
Depuis tout jeune, enfin, depuis que tu commences le foot, depuis que tu es footballeur, tu as ces deux issues. Ok ? Donc j'ai passé mes diplômes au CDES de Limoges, je leur ai dit je vais être président de club.
Ils ont souri. Ah ouais.
Pourquoi ? Bah non, président, tu vois, il faut avoir des notions de ceci, cela. Pas de soucis, je les ai les notions. Ah, bah, si vous voulez, je vais passer le CDES de Limoges, 18 mois, voilà. Donc je suis formé. Ouais, mais quand même, tu vois, tu me parlais des skills. Mais les soft skills, je les ai. Le management, c'est quoi ? C'est l'humain. Il y en a plein qui ont des hard skills, qui ont des diplômes de finance, de marketing, ouais, qu'on sort. Par contre, pendant la période de Covid, la période de Covid, ça a été un déclic pour moi. Je me suis dit, mais comment c'est possible qu'avec tous ces dirigeants qui ont des masters en finance, c'est comme ça, le club, il est plombé comme ça. Et les finances exactement. Du club sont plombées. Donc je me suis dit, bah ouais, je vais être président de club. Et donc, quand tu es un ancien joueur, tu peux être ce que tu veux. Tu peux devenir ce que tu veux. Et Totti, c'est ça qui est triste, parce qu'effectivement, c'était un dieu. Et donc, la plupart des gens, tu l'as dit, on ne s'appartient pas. Ça, c'est le premier problème. On doit s'appartenir. Moi, quand je fais un mauvais match, que je fasse un bon match ou un mauvais match, peu importe. Je me balade dans la rue. Ouais, je me balade dans la rue de la même façon.
Mais toi, tu le sais aussi.
Oui,
si
mais...
tu as fait un bon match, un mauvais match, si quelqu'un toi, te dit, tu le sais, fait donc, un bon match pour te caresser.
Exactement, je le sais. Je fais un mauvais match. Je vais marcher de la même façon que si j'ai fait un bon match. Parce que c'est pas parce que j'ai fait un bon match que je vais rouler des mécaniques, tu vois, et que tu vas me regarder avec des yeux, tu vois, ah, c'est génial, Édouard Cissé. Même si tu me calcules pas parce que je suis Édouard Cissé, parce que j'ai joué à Paris ou à Marseille, ça va pas m'affecter, ça doit pas nous affecter. Doit pas nous affecter. Donc, très tôt, tout ça pour en revenir, c'est que ce qui est important, c'est que les footballeurs, les jeunes, dans les centres de formation au CAS, je fais du football pendant 10 ans, s'il faut, mais si après je veux devenir ce que je veux, je peux le faire. Tout le monde aime les États-Unis là. Bah, tu peux devenir ce que tu veux, bah, vas-y.
Tu vois, pour rebondir aussi un peu à ta question, Matt, tu parlais d'orientation au niveau des professions, du taf, tout ça. En plus, on en parlait dans le podcast, dans mon podcast Ballon Main Corps, que je vous encourage à écouter.
Ouais,
Matt a été un de nos invités. Et tu disais à juste titre que le footballeur, durant sa carrière, malgré tout, il développe des compétences.
C'est vrai. Ouais.
Il développe des soft skills vraiment intéressantes, importantes pour pouvoir manager, pour pouvoir leader, pour pouvoir avoir ses capacités aussi à réfléchir, à s'adapter aux situations. Mais attends, Edouard,
t'es allé dans trois pays, quatre pays. Mais c'est dans les vestiaires, comment tu fais?
J'allais te dire la même chose. Oui. T'arrives à Beşiktaş, t'arrives devant des Turcs, devant des Brésiliens, comment tu gères la chose? T'es titulaire, on veut ta place, mais tu arrives à gérer les choses. En fait, c'est des choses qu'on peut retranscrire en dehors du football.
Je m'en rappelle. Pardon, vas-y, finis.
Ouais, c'est ça. Non, mais après, c'est bon, j'ai juste terminé par rapport à ça. C'est pour ça que c'est vraiment important que le joueur, que le footballeur en tant que tel est conscient de cela. Après, forcément, il faut aussi un accompagnement. Toi, tu as parlé d'accompagnement psychologique. Moi, je dirais un peu plus...
coach, tu peux avoir des coachs professionnels,
voilà,
aussi.
Voilà, un mentoring. Moi, je dirais un peu plus un mentoring. Ouais. Moi, par exemple, la chance que j'ai eue, c'est que moi, Stéphane Erhardt, qui à l'UEFA, c'est encore aujourd'hui, c'est mon mentor.
Ouais.
C'est lui qui m'accompagne dans ce que je veux faire. Il me conseille sur certaines choses. Moi, je fais part de mes idées. Il est en train de construire un peu mon identité en tant qu'homme, en tant qu'entrepreneur.
Ouais,
moi aussi, je vais être un peu dans le management. Ça m'intéresse. Et puis voilà. Après, comme Edouard l'a dit, on n'est pas non plus...
Attends, c'est un truc de dingue. Parce que, bien sûr qu'on n'est pas que des footballeurs. À partir du moment où maintenant, on gagne tu es dans une génération où on gagnait beaucoup plus d'argent que dans les années, début des années 90. Donc, ouais. On gagnait de l'argent. Donc, très tôt, je me suis dit, bon, cet argent, je le gagne. Comment je vais faire pour l'investir? Donc, c'est pour ça que j'ai pris un conseiller. Ce n'est pas le conseiller qui investissait à ma place. Je m'intéressais, c'était mon argent.
Ah, je suis acteur du truc.
Je suis acteur. Donc, très tôt, à 21-22, j'ai compris beaucoup de choses. Parce que je ne suis pas plus grand qu'un autre. Il m'a expliqué, je me suis intéressé à comment gérer mon argent. Bon, ben ça, c'est une école de commerce.
Exactement.
Sauf que c'était mon argent. Alors que l'école de commerce,
c'est l'école de commerce, gros en nature.
Ouais. Donc, ouais, grosso modo, c'est que tous les joueurs qui gagnent beaucoup d'argent...
T'es dans la pratique.
Ouais. Intéressez-vous.
Exactement.
Intéressez-vous. Ouais.
Mais toi, tu l'as fait par toi-même. Est-ce qu'il y a un accompagnement dans les clubs? J'ai la réponse déjà. C'est non. Mais pour l'après-carrière, comment gérer son argent, comment gérer la célébrité.
Parce qu'on veut pas qu'ils réfléchissent trop, parce qu'en
fait, voilà. En fait, toi, on t'a fait la réflexion, tu penses trop à d'autres choses. Donc, en fait, bah, pensez qu'au foot et tous ces trucs-là, vous y penserez quand votre carrière sera finie et qu'on n'aura plus besoin de vous.
Exactement. C'est trop tard. Ouais. Et penser à la fin, je trouve que c'est trop tard. Moi, à la fin de ma carrière, je pense que toi aussi, c'est pareil. À la fin de ma carrière, j'ai reçu des dossiers de personnes monter des urbanes à Marrakech. Mmh. Ouais, c'est génial.
J'ai écouté l'épisode avec Joshua.
Il voulait que mon argent. À la fin de ta carrière, le footballeur est intéressant parce qu'on veut ton argent pour le placer.
Ah, ouais,
donne-moi
ça.
Ton argent, j'ai des projets, j'ai des idées.
Mais c'est moi
si, dès le départ, hein, on t'apprend à avoir tes propres idées et avec ton argent, tu vois, à développer tes projets, tu vas vite comprendre qu'à la fin de ta carrière, tu peux être un entrepreneur dans ce que tu veux.
Quand on parle de regrets dans une carrière, moi on me dit « Ouais, c'est quoi ton regret? T'as pas joué en Première Ligue ou t'as pas fait la carrière que tu aurais dû avoir ?» Je fais « Non, non. C'est quoi mon regret ?» C'est pas avoir exploité toutes mes capacités financières, justement, à ce moment-là. Parce que
dès le début.
Faut dire ce qu'il y a, après, aux généraux de... Pas forcément des jeunes de banlieue, parce que j'ai pas non plus... grossir le trait, mais c'est quand t'es un jeune, en fait. Quand t'es jeune, t'as pas la notion de... T'as pas d'éducation financière, en fait. T'es pas accompagné financièrement, t'es pas accompagné au niveau du mindset pour optimiser tout ce que tu peux avoir, en fait. Et moi, mon gros regret, c'est ça, en fait. Parce que je sais qu'avec les salaires... Des fois, quand je rentre chez moi, je tombe sur des fiches de paye à l'époque quand j'étais à Nantes ou quand j'étais à la Roma. Purée, j'avais tout cet argent. Qu'est-ce que j'ai fait avec cet argent, en fait? Tu vois ce que je veux dire? On s'amuse, on prend du plaisir, ça. Il faut aussi décompresser. Ouais. Mais
de gagner de l'argent avec ton argent. T'aurais pu, avec cet argent-là, gagner
de
l'argent.
Ça, mais en fait, t'aurais pu faire tellement de choses. Et justement, on parle de seconde vie. Ta seconde vie, je sais que ma seconde vie, elle aurait été magnifique, en fait. Ouais. Si c'était même mieux que la première.
Exactement. Là, il vient pointer du doigt quelque chose de sérieux. Beaucoup de joueurs continuent leur carrière à 36, 37, 38 ans. Ricky et moi, on sait qu'à un moment donné, le corps, 34, 35, si tu as été sérieux, 34, 35, le corps, il commence à dire
c'est bon.
T'as vraiment envie ce matin d'y aller? Tu vois, il te dit stop.
Et ton cerveau aussi, ton cerveau, tu te dis bon, tu sais quoi, bon, t'as fait ce que t'avais à faire, allez.
Mais quand t'as 38, 39, 40, non, 40, c'est rare, mais. Tu vois, et tu les vois dans des championnats un peu exotiques, super loin, tu dis, mais qu'est-ce qu'il continue à jouer? Parce que, un, divorce, deux, et puis il a plus de thunes, tu vois.
Ouais, c'est ça.
Et donc, il va cachetonner parce qu'on lui a proposé un salaire et tout ça. Mmh. Et donc là, c'est triste. C'est triste parce que, bon, à un moment donné, tu ressens plus à rien à 38 ans. Globalement, 38 ans, c'est compliqué. Il faut qu'à côté de toi, il y ait des vrais bons joueurs.
Ouais, sur 10 joueurs qui partent dans des pays exotiques, peut-être aller un ou deux qui disent bon, c'est vraiment pour le kiff, je vais découvrir un pays, tout ça, je vais vraiment.
Ouais,
mais le reste, c'est vrai que c'est la recherche du dernier billet, quoi.
Mais ce que vous dites sur la notion investissement et argent, tu en as parlé un petit peu tout à l'heure, Edouard aussi, ça me fait penser à une discussion que j'ai souvent avec Hume, donc Quentin Westberg, qui est la suivante, c'est dans l'absolu, un joueur professionnel qui a fait 10 ou 12 ans de carrière, Il devrait pouvoir faire ce qu'il veut à la fin. Parce que ce qu'il a gagné pendant 10 à 12 ans, si... Je parle même pas de placement en investissement hyper agressif. Mais s'il est capable d'en investir un petit peu, a priori, après, s'il veut même faire 10 ans de vacances, il peut. Et c'est là où je raccroche avec une autre discussion qu'on avait sur les questions de formation, et peut-être que on va parler un petit peu de l'INF. C'est là où il y a une vraie marge de progrès dans la manière dont on éduque l'homme derrière le footballeur. C'est que à l'INF, tu me corriges si je me trompe, mais on vous parle de la potentialité ou de l'éventualité, l'INF ou les autres ou d'autres centres de formation, de pas passer pro. Et ça, c'est normal parce que alors encore vous avez une génération exceptionnelle en ratio. Mais voilà, on te dit peut-être que voilà, il y aura que 3 ou 4, 5 pros. Donc ça, c'est intégré assez rapidement. Mais je pense pas qu'on aborde pour ceux d'entre vous qui seront pros. voilà comment, au-delà de votre rôle de footballeur, bah, vous pouvez vous structurer, vous pouvez commencer votre vie d'après, parce que la vie sportive va durer que 10 ou parfois moins. On disait tout à l'heure que c'est quoi le chiffre, 4 ans et demi ?
Entre 4 et 6 ans en moyenne, la carrière d'un footballeur professionnel. C'est pour ça qu'on a des recordman là.
Ouais.
Ils sont allés... Non, mais parce qu'en fait, on parle des footballeurs professionnels qui sont dans l'actualité, dans les médias, donc on considère que c'est normal. Et moi-même, je l'ai appris. Hein. C'est grâce à eux tout à l'heure que j'ai appris en regardant que la moyenne pour un footballeur professionnel de durée de carrière, c'est entre 4 et 6 ans. En fait, tous ceux qu'on connaît, on les connaît parce que c'est des exceptions. C'est pour ça qu'on en parle dans les médias, parce que c'est les meilleurs. Mais il y a un footballeur professionnel lambda dont la carrière dure entre 4 et 6 ans et qui finit dans les championnats amateurs après.
Et donc, est-ce que en centre ou est-ce qu'à l'INEF, toi, on t'a parlé pendant ta formation déjà de ton après-carrière en disant bah oui, tu vas faire t'es formé à être professionnel, mais il faudra que tu considères ça, ça et ça parce que ça va durer que potentiellement 4 ans et demi parce que c'est la moyenne. Est-ce que c'est des discussions que
t'as eues ? Non, pas du tout. Déjà à mon époque, il y a 10 ans, pas du tout. Edouard, je pense encore moins. Et après, Max l'a très bien dit tout à l'heure, c'est que pour eux, on est des footballeurs. Enfin, on reste des footballeurs, on reste des mecs sur le terrain. On doit être performant sur le terrain. Après, limite, ce que tu fais à l'extérieur, ils s'en fichent en fait. Ils s'en fichent. Ok, maintenant, peut-être qu'il y a plus de suivi à l'heure actuelle. Mais à mon époque, non, il n'y a aucun suivi hors terrain. Vraiment, hors terrain, hors structure footballistique, il n'y a pas de suivi. Hein. Il n'y avait pas de suivi. Aujourd'hui, je ne sais pas, je n'ai pas me permettre de juger. Mais non, t'es livré un peu à toi-même.
Même pas l'UNFP qui venait sur une journée.
Si, t'as l'UNFP qui vient faire sa traditionnelle visite annuelle pour dire voilà, faites ci, faites ça, faites ci. Et encore, maintenant, on revoit tous les cadavres qui commencent à ressortir là. Edouard, il ne voulait pas le dire, mais bon, il faut bien le dire.
Hein. Il parle d'UNFP.
Je ne sais pas, moi, je ne les connais pas. Hein.
Oui, ils sont arrivés, ils ont fait des investissements, et puis voilà, ce n'était pas les plus judicieux. Mais non, mais effectivement, quand tu vas dans un centre de formation, on dit attention, ceux qui ne réussissent pas. Attention, ça va être compliqué. Pensez, vous n'allez pas réussir, donc pensez. Mais quand tu réussis, il faut penser à vous allez gagner beaucoup d'argent, parce que vous gagnez beaucoup d'argent. Quoi qu'il arrive, on gagne beaucoup d'argent. Qu'est-ce que vous allez faire de cet argent ? Est-ce que vous allez dépenser, l'investir ? Je vais même te dire, tu as dit sur toute une carrière, sur 10 ans. Mais je pense sincèrement que tu fais un contrat de 4 ans, tu peux, hein, sincèrement, en fonction de certains clubs, si tu n'es pas trop bête, Tu peux arrêter. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que très souvent on dit mais qu'est-ce que vous faites de vos journées? Mais c'est pas trop difficile. Et tu sens, c'est pas trop difficile, mais comment vous faites pour gagner votre vie? Tu vois? Et c'est là où non, mais ça va être compliqué de leur expliquer j'ai placé mon argent, j'ai investi, tu vois, dans la crypto-monnaie, dans l'immobilier. Ah bon? Et ouais, alors t'es obligé de dire putain, t'es loin alors, mec.
C'est pour ça que quand tu dis 4 ans, on l'a vu quand l'argent entre guillemets était gratuit et que tu pouvais avoir des prêts à des taux très très bas. En fait, il y a des gens qui, à partir d'un premier prêt et un premier appart, ont monté des petits empires. Mmh. Ils avaient zéro. Hein. Mmh. Donc c'est pour ça que même avec un salaire sur 4 ans, démerdes bien, t'achètes ta première appart, t'achètes ta deuxième, t'achètes ta troisième.
Attention, il y a beaucoup de footballeurs qui sont dans ça aussi. Hein.
Oui,
de plus en plus. Qui ont été intelligents, qui ont acheté dans chaque club.
Ils ont appris des erreurs des anciens.
Ouais, ou alors ils ont été si bien conseillés aussi, ils ont une bonne éducation financière. Mais c'est vrai que pour beaucoup, beaucoup d'autres footballeurs, c'est plus compliqué. Ouais.
Et je rejoins complètement Ricky sur le côté, ça progresse aussi, parce que pour revenir à ce que disait Edouard, t'as de plus en plus de joueurs qui sont acteurs du truc. Et le fameux, tu vois, la légende du « ouais, tous les agents sont véreux » ou « tous les conseillers financiers veulent t'arnaquer ». Alors, il y a des exemples, notamment dans les années 80-90, où effectivement, tu te rends compte qu'il y a beaucoup de footballeurs qui ont subi ça. Mais c'est aussi, comme tous les milieux professionnels, c'est un milieu apprenant. Et investir, ça partage des informations, tu rencontres des mecs qui sont bien conseillés, tu vois qu'ils progressent, donc tu as envie de rencontrer, enfin, tu vois. Et je pense sincèrement que à partir du moment où tu t'intéresses à la chose, t'es pas moins intelligent y a pas un niveau d'intelligence moyen chez les footballeurs qui est inférieur aux autres métiers. Donc si tu t'intéresses et que t'es acteur de ces projets là bah tu peux
faut juste s'intéresser. Après, j'ai beaucoup d'amis qui avaient gagné beaucoup d'argent, beaucoup plus d'argent que moi, et qui je pense n'ont pas le même train de vie que moi. Ils ont farotté, comme on dit, tu connais l'expression. Ils ont voulu cramer l'argent parce que
ils ont mangé la vie.
Pourquoi ? Parce qu'ils se sont aperçus qu'il y avait plus de monde autour. tu vois, et donc c'était sympa, ils aimaient ça. J'ai beaucoup de potes qui étaient des extravertis, qui aimaient faire la fête parce qu'ils aimaient être ils accordaient beaucoup d'attention à la vie des autres.
Ouais.
Et c'est des mecs super généreux. Autour d'eux, il y avait énormément de monde. Je me dis, mais t'as besoin de ça. Donc, il fallait qu'ils aillent en vacances sur certaines îles, mais avec du monde. Pourquoi? Ouais. Et montrer que. Je dis, mais t'as pas besoin de montrer que. Tu vois, ils rentrent pas en compétition. Et c'est le même problème que j'ai aussi avec d'autres personnes qui ont 55, 56 ans, qui sont beaucoup plus riches que moi, mais qui sont en guéguerre avec son copain d'une autre banque, qui a une plus d'argent. Et tu vois, c'est la course à l'échalote, tu vois. Mm-hmm. Je veux montrer que je suis plus riche que toi. Oh, mais tu vas aller loin, quoi. Donc, c'est un problème à tous les niveaux.
On rentre dans l'ego, on rentre dans l'ego. L'éducation, tout ça. Et c'est vrai qu'un footballeur, forcément, on doit gonfler notre ego. Parce que c'est un rapport de force avec l'adversaire, tout ça. Et puis, il faut aussi montrer dans le vestiaire que t'en imposes, tout ça. Et moi, moi, dans le football, c'est ce qui m'a aussi un peu gêné. C'est aussi pour ça que j'ai pu aussi faire la part des choses. C'est que... Pareil, moi aussi, hein, c'est peut-être mon défaut quand j'étais joueur, c'était que je n'ai pas vraiment un ego surdimensionné. Ça veut dire que j'ai pas pu survivre dans des gros vestiaires, à la Roma, tout ça, ou à l'Everkusen.
C'est des gros vestiaires aussi.
Parce que voilà, il faut en montrer. Et moi, c'est ce que je n'avais pas forcément, mais ça me sert aujourd'hui parce que voilà, maintenant, je suis beaucoup plus lucide et j'arrive à gérer, justement, on parle de seconde vie, j'arrive plutôt à bien la gérer. Quoi.
Non, et puis, je comprends ce que tu veux dire par rapport, pour revenir sur ça spécifiquement, par rapport à l'ego et à ne pas s'imposer dans un vestiaire, mais il y a quand même ta qualité sociale qui te permet aussi d'avoir les opportunités que tu as aujourd'hui. Et donc, tu vois, c'est pour moi, c'est aussi un bon équilibre, parce que je reprends cet exemple-là. Mais l'accueil qu'on a reçu à Rome,
ouais.
Tu vois, je ne dis pas ça parce que Ricky est là, mais l'accueil qu'on a reçu à Rome, c'est l'accueil digne d'un joueur qui a passé 10 ans au club. C'est-à-dire qu'on a été reçu à la table de Totti, enfin, tu vois. Donc,
je vais parler d'autre chose, vas-y.
Donc, c'est-à-dire que la place que tu peux prendre dans un vestiaire et les qualités que tu y développes, Ricky dit, ouais, j'ai peut-être eu une carence sur l'ego. En revanche, je suis persuadé que la qualité sociale que tu as développée...
Au niveau de l'image.
Au niveau de l'image que tu as développée par rapport à tes qualités, à tes skills, à tes soft skills, elles te servent aujourd'hui en ta reconversion.
Ouais.
Et elles t'ont servi...
En effet.
De par la réputation que tu as dans tous les clubs par lesquels tu es passé, allumer les différentes mèches qui te permet aujourd'hui d'avoir un peu le choix dans ce que tu vas faire après.
Ça, c'est vrai. Je confirme. Il doit vous dire quelque chose.
Non, ce que je voulais dire, c'est que, effectivement, c'est ta bonne image. On prend que des bonnes personnes sur le podcast, donc c'était logique. Ouais. Et deux, après, je vais parler d'un truc, c'est qu'en Italie ou en Angleterre, il y a une culture, il y a une mémoire des joueurs.
Ouais. Ouais, c'est ce que tu disais à l'époque quand tu y étais. J'ai écouté aussi un des épisodes.
C'est un truc de fou. C'est-à-dire que t'as porté le maillot de la Roma. Donc, ça y est. Tu fais partie de la famille Roma.
Mm-hmm.
D'accord? Donc, ils vont t'accueillir. En plus, t'as une bonne image. T'es un bon mec. Donc, nécessairement, c'était logique. C'était limite un no-brainer. C'était logique, limite, que ce soit un accueil comme ça. C'est toujours surprenant parce que voilà, mais logique. En France, on a du taf. Moi, ça, c'est franchement, c'est mon cheval de bataille. Tu vois, moi, quand je suis consultant et que je vais à Marseille ou à Paris. Waouh, j'ai pas l'impression d'avoir joué à Paris ou à Marseille.
C'est incroyable.
Tu vois, et ça, c'est à Monaco pareil, tu vois. Alors, effectivement, c'est plus les mêmes dirigeants, mais globalement, il y a une transmission de l'histoire à avoir.
Ouais.
Ce qui est étrange, c'est que quand j'étais joueur, j'étais pas super médiatisé. Ce qui me permet de travailler, d'avoir une bonne image, c'est mon CV. Donc, j'ai gagné des titres. Donc, c'est ce qui est bien. Parce que quand tu finis ta carrière, on se regarde et qu'est-ce que tu. Palmarès, tu regardes à palmarès, qu'est-ce que tu as gagné ou pas. Et moi, ce qui m'a surpris, c'est que sitôt que j'ai arrêté ma carrière, j'ai commencé à fréquenter des personnes que j'aurais pas fréquentées auparavant, soit des dirigeants de club, soit des mecs d'un certain âge. Et je faisais des repas avec eux, tranquille, informel. Et ils me disaient, purée, franchement, j'aurais jamais cru. Hein.
Exactement, ouais.
Belle surprise.
Ouais, c'est ça.
Mais tu sais, ils l'ont dit tellement instantanément. Genre, je dis, mais,
il fait des phrases.
Mais c'était quoi?
Putain, pour un footballeur.
Ouais, vos a priori, quoi. Et c'est des passionnés de foot quand même, malgré tout. Mais tu dis, waouh, on vient de loin. Donc, ça va être très difficile de déconstruire l'image du footballeur. Donc, moi, ça me... Non, j'ai pas plus... Les portes, elles sont pas plus fermées que ça.
Okay.
Parce que justement, une fois que tu arrives à parler avec les gens, ils voient que t'es pas trop con. Mais après, c'est quand tout à l'heure, quand je te disais, quand je vais à Paris ou à Marseille, c'est surtout même les gens du club, hein. Les gens du club, c'est la transmission de l'histoire.
Ouais.
Que les supporters qui ont 50 ans, ok. Ceux qui ont 10 ans, 15 ans,
normal.
Ça, c'est normal. Mais c'est le club.
Ouais.
Le club, il y a des gens qui travaillent dans le club, ils ne savent pas quitter. Et là, je me dis, mais c'est pas possible.
C'est fou. Hein.
Mais tu bosses dans quelle entreprise? C'est comme dans tout. Moi, ce qui m'offusque, c'est quand tu vas dans des entreprises et les mecs, les gens, les employés, ils ne connaissent même pas le boss, quoi. Ah si, ah oh, purée, je savais pas. Je caricature un peu, mais cet esprit de famille, on doit tout savoir. Tu bosses dans le club, bah, tu dois avoir un peu un historique. Et donc, pour en revenir à ce que tu disais, on a la boucle alumni là, oui, on a OM légende, Monaco légende,
ok,
voilà. Et c'est surtout Monaco qui est actif. Et c'est Pierre Jogado qui met en contact tout le monde. Donc il y a les anniversaires.
Mais à quoi Monaco c'est différent, parce que Monaco aussi, ils ont une attache aussi, on va dire historique.
Ouais, ouais.
T'es via le prince, tout ça, exactement. Donc ils vous connaissent. Monaco, les épopées,
Monaco,
tout ça.
C'est le seul.
C'est un état.
Monaco, c'est encore différent.
C'est un pays, particulier.
Et tu le sens. Et donc là, tu vois, il y avait l'anniversaire. Yann Kohler, c'était mon anniversaire, donc il y a toute une boucle d'à peu près de plusieurs générations où tu t'envoies des petits messages et c'est sympa, tu vois.
Cool.
Marseille ou Paris, non. C'est très difficile à mettre en place. Il y a eu un changement de direction, un changement d'actionnaire, mais quelque part, peu importe, l'actionnaire il met l'argent et puis après tu leur dis, oui, mais il y a eu des joueurs auparavant, quoi. Si c'est toujours les mêmes, Ronaldinho, Anelka, après à Marseille, ils vont sortir Djibril Cissé ou Basile. Bah, encore, il a gagné en 93, on peut comprendre, mais. Voilà, c'est pour toutes ces raisons. Donc, petite mort, nouvelle vie.
Ouais. J'avais envie de faire une blague.
Ouais, monsieur Hachimi, c'était l'époque où il gagnait mal. Ouais.
Non, c'est ça. Enfin, au moins, les gens qui gagnaient des titres pourraient s'en souvenir, parce que c'est pas comme s'ils gagnaient souvent. Donc,
C'est ça.
On a parlé des autres pays. J'ai une question peut-être un peu plus perso que celle qu'on a évoquée jusque-là. Quand on a, comme vous, pas mal voyagé, et c'est quand on fait des très longues carrières, hormis Totti ou d'autres exemples de Bandiere.
Steven Gerrard.
Ouais. Comment on choisit où on s'établit à la fin de sa carrière? Est-ce que c'est le club dans lequel je me suis senti le mieux? Est-ce que je reviens dans ma région d'origine? Est-ce qu'au contraire je vais à un endroit où personne ne me connaît? C'est quoi le...
Il n'y a pas de règle. Non, il n'y a pas de règle. Vraiment, c'est... Chaque cas est différent. Moi, je sais, par exemple, j'ai un pote à moi, un bon ami à moi, un Jamaïcain, qui joue avec moi à Ankara en Turquie, maintenant qui vit à Antalya. Parce qu'il a kiffé le pays. Imagine, Jamaïcain en Turquie.
Antalya, c'est sympa.
Antalya, c'est top. Par contre, lui, là, il n'est pas parti dans les montagnes. Hein. Il est parti vraiment au soleil. Après, je pense que c'est au cas par cas.
Ouais.
J'ai l'exemple, justement, quand je suis parti à Rome très récemment, j'ai croisé Philippe Mexès. Il vit, il est toujours sur région bordelaise, tranquille. Il n'a jamais joué à Bordeaux, mais après, il vient de là-bas un peu. Donc, il a choisi les Landes. Le bassin d'Arcachon, pardon.
Ouais.
Et non, moi, en ce qui me concerne, je suis revenu dans le 78 à Rambouillet, proche de Clairefontaine, parce que c'est là-bas que j'ai rencontré ma femme. Ma femme est de Rambouillet. Donc, je me suis dit, si vraiment on doit revenir en France, c'est vrai que la question s'est posée par contre. Hein. Je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste sur la Turquie?
Parce que t'étais au rang en Turquie. Enfin, c'est un pays
j'avais ma maison en Turquie aussi. Est-ce que, pourquoi pas l'Italie, faire quelques années en Italie? Et je me suis dit, bon, avec les enfants, avec la scolarité, je me suis dit, bon, si je reviens en France, c'est seulement à Rambouillet, parce que je connais les habitudes, on a des amis là-bas, c'est vert, c'est calme. Donc, je pense on privilégie, on va dire, ça c'est mon opinion, mais en tant que nouveau retraité, on privilégie la tranquillité, hein, non? C'est la tranquillité et la commodité, je pense.
C'est la femme qui choisit aussi un peu.
C'est la femme qui choisit.
On va pas se mentir.
Quand t'es encore marié, c'est la femme qui choisit.
C'est la femme qui choisit.
Ça, je vous rassure, pas besoin d'être footballeur pour que ça.
Ma femme était de la région parisienne, donc j'ai fait quand même pas mal de temps à Paris, donc c'était Paris. Et après, tu te transformes comme un bobo parisien, donc après, de temps en temps, tu vas en Normandie, c'est ça.
Ouais.
T'acceptes qu'il
va à Paris plage, tranquille. Voilà.
Et d'ailleurs, on parle de la famille. Est-ce que c'est forcément plus simple? Est-ce que c'est forcément un soulagement pour l'entourage ou au contraire une crainte? Enfin, ça dépend, tu vas me dire que c'est au cas par cas. Parce que si t'es le provider, les autres, ils vont te dire du jour au lendemain, comment on fait maintenant que t'es plus footballeur professionnel? Ou est-ce que pour la famille qui déménageait ou les enfants que tu devais déscolariser, changer d'école tout le temps, c'est peut-être plus un soulagement, mais en même temps, Edouard nous l'avait déjà dit une fois, t'es bien gentil, mais t'es au milieu du salon maintenant, comment je fais? J'avais mon équilibre sans toi, maintenant t'es revenu, il va falloir que tu trouves tu fasses ta place. Donc comment ça se passe? Est-ce que c'est un soulagement ou pas?
Je pense que pour le noyau dur, je parle de la vraie famille, femme, enfant, ça peut être un soulagement parce que, par mon vécu, je sais que moi, mes enfants, ils sont contents de me voir au quotidien à la maison, ils sont contents de me voir les chercher à l'école, tout ça, les amener à l'école le matin parce que. Quand tu joues, en général, 16h30, on fait la sieste.
Ouais.
Grosso modo, le matin, on se lève, mais des fois, non. Ou alors, on est en déplacement le week-end. Mmh. On n'est pas là pour les matchs du petit le week-end. Donc forcément, ils sont contents de savoir le papa présent. Après, oui, pour le noyau, le groupe un peu plus élargi, c'est plus compliqué. Donc, comme disait Edouard au début,
Ouais, une petite pige là-bas, ça t'intéresserait pas? Attends, mais on est au mois d'août, là, va courir, il y a moyen de prendre un billet là-bas. Et la Malaisie, t'as pensé? Tu vois, donc c'est tous ces trucs-là qui fait que forcément, t'as pas mal de réactions, on va dire, contradictoires, mais à la fin, c'est, encore une fois, je me répète, mais ce que a dit Edouard, c'est vrai, c'est ce que toi, tu décides. Et je pense que le meilleur choix, c'est ce que tu fais toi-même. Après, ta famille, de toute façon, s'ils t'aiment, ils s'adaptent. Hein. Comme toujours, même quand tu voyages. Moi, j'ai fait 6 pays différents. Quand je disais à madame, bon, on va en Turquie, allez hop, on déménage, les enfants. Ah, on repart en Italie, on redéménage. C'est la force d'une famille aussi. Ça. C'est important de bien s'entourer. Ça, pour moi, c'est des valeurs immuables. C'est vraiment, l'entourage, c'est super important. Pour une carrière et pour une après-carrière aussi.
L'entourage, après... Moi, ça a été compliqué aussi. Pourquoi ? Parce que quand j'ai arrêté ma carrière, alors quand je dis mes conseillers, c'est vrai qu'ils ont eu peur que je m'ennuie. Tu sais, parce qu'ils se voyaient, eux. Grosso modo, quand les gens qui t'aiment te voient et que t'arrêtes, ils disent « Mais qu'est-ce que tu vas faire ?» Mais ils parlent d'eux-mêmes, quoi.
Ils projettent leur propre peur.
Donc, très tôt, ils ont vu que je savais ce que je voulais faire, que j'allais être plus ou moins à l'abri, parce que voilà. Mais globalement, c'était cette forme de peur. Moi, ce qui m'a déçu le plus, et même mes parents, c'était les premiers, ils disent « Mais qu'est-ce que tu vas faire ?» 34 ans Mon père me dit, continue comme ça. J'ai dit, non, j'arrête. Donc, ils étaient un peu déçus. Mais du coup, moi, ce qui m'a le plus déçu, hein, c'est qu'il n'y ait personne, et ça, je l'ai dit, hein, qu'il n'y ait personne qui m'ait dit, bravo, t'as fait 15 ans, quoi. 15 ans, t'as fait 15 ans, c'est génial. Personne m'a félicité. Tout le monde dit, mais qu'est-ce que tu vas faire? T'es fou, quoi. Mais on n'arrête pas à 34 ans, continue.
Après, pour leur défense, je pense que peut-être qu'ils te voyaient encore fit, ils te voyaient encore prêt à jouer, tout
mais
ça.
Non, mais... Ça y est, hein, j'ai fait la paix avec qui va sur toi. Non, j'école. Mais c'est vrai que c'est peut-être ça, ce que je dis. Toi, tu viens d'arriver et d'arrêter. Et du coup, c'est juste ça la grosse déception. Sinon, le reste, j'assume. Je dis, j'assume tout ce que. Il n'y a aucun souci. Personne ne m'a dit bravo. Comme si eux n'avaient pas conscience que mon parcours était déjà exceptionnel. Je viens de pauvre, Ricky. Je n'ai pas fait de centre de formation. Mmh. J'arrive jusqu'à l'âge de 16 ans. Je suis en district. District. Mmh. Normalement, c'est fini, quoi. District, oublie tes rêves, quoi. Non. La moindre des choses, c'est putain, c'est génial. Allez, viens, assieds-toi, on ouvre une petite bouteille ou je sais pas quoi, et on se parle.
On célèbre.
On fait ça. Ouais. Et du coup, j'ai même pas célébré, j'ai même pas annoncé que je prenais ma retraite. J'ai rien dit. Parce que je me dis, bon, je sais pas, la famille ou l'entourage pense que. Même mes potes, hein. Tu reprends en septembre, pas possible. Non, j'ai dit, j'arrête. Bah si, arrête. Non.
On va t'organiser ça.
Tu vois
un petit pot de fin de carrière. On va faire un jubilé.
On va faire un urban.
On fait un jubilé en commun.
Un urban.
Non, mais c'est intéressant aussi parce que je pense que.
C'est juste ça que
je. C'est vrai.
T'as sûrement une partie où pour les gens, c'est induit. Quoi. Il est joueur professionnel, donc forcément, c'est mortel. On n'a pas besoin de lui dire que c'est bien. Et tu vois, t'as sûrement cet élément-là aussi.
Parce qu'à l'époque, tu sais pas que c'est dur. Maintenant, on en parle beaucoup plus. Tu vois, les problèmes psychologiques et tout ça. Et attention, la pression.
Et c'est un excellent point. Est-ce que vous pensez tous les deux, parce que ça arrive quand même relativement souvent, que des joueurs ou même des entraîneurs, et à la Klopp qui est l'exemple le plus récent, qui ont besoin de faire une année. Tu vois, ils arrêtent. Bah, tu fais quoi l'année prochaine? Bah, j'arrête. Et pendant une saison ou deux saisons, je fais rien. On entend beaucoup, je profite de ma famille, etc. C'est vous pensez, pour certaines personnes, nécessaire?
Ouais. Ouais, mais
pour
franchement,
toutes ces personnes.
Ouais, pour la plupart, ouais. Wow. Parce que tu passes hein, par ces moments-là, une saison, tu dis, ah, je me fais chier, vas-y, tu sais quoi, j'ai envie d'arrêter, tout ça. Mais après, ça revient. Bah, c'est comme tout, en fait. Ouais, des fois, il faut être sympathique. Moi, j'ai le souvenir de certains joueurs qui se pétaient, tu vois, qui étaient claquages, déchirés, ils disaient, ah, c'est bon, je vais pouvoir me reposer.
Ouais.
Tu vois, c'est ça.
Donc, la blessure devient
psychologique, limite.
Voilà, ça devient un exutoire, ça devient un soulagement. Ouais. Encore une fois, on revient encore à ce critère de performance de footballeur. Si tu viens dire, vous savez quoi, une saison, payez-moi, je sais pas, on trouve un arrangement, vous ne me payez pas ou la moitié, ou me payez au SMIC, enfin, à la charte, j'arrête un an, ils vont dire, c'est bon, il est mort, lui, il est faible, lui. C'est quoi ce joueur en carton, il est là, il arrive, tu vois, c'est ça en fait, ça va être tourné comme ça, malheureusement. Ouais. Mais le côté mental, il est super important, c'est vrai.
Dans le monde de l'entreprise normale, maintenant, tu as des années sabbatiques. Ah, tu peux partir un an. Ça serait fou que ça arrive dans le foot. Ça serait fou que ça arrive dans le foot. Ça serait superbe.
Tu as même un truc qui s'appelle le droit à la déconnexion maintenant. C'est-à-dire qu'en tant qu'employé d'une boîte lambda, tu as le droit de dire bah non, de telle heure à telle heure, je ne suis pas tenu de consulter mon téléphone ou mes emails.
Et tu vois, est-ce qu'en tant que footballeur professionnel, tu as le droit de dire de 18 à 19
footballeur, c'est plus qu'un job, c'est plus qu'un travail. Tu sais, après, c'est tout ce qu'on va ressortir derrière. Après, il y a aussi un critère physique
qui est c'est
important, important aussi. Donc, je ne sais pas comment on pourrait l'implémenter. Mais
faut changer
de
mentalité.
Mais en même temps, c'est le meilleur moyen. Enfin, c'est-à-dire que, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est toi qui l'as dit, Ricky, le foot, c'est l'instantanéité. C'est, c'est un peu le moment présent, mais pas au sens... au sens carpe diem, ouais. Quoi. C'est plus le moment présent parce qu'il n'y a que le présent qui compte, la victoire, exactement. Le résultat. Ouais. Mais en fait, si tu y réfléchis, c'est une logique à long terme de se dire je vais te laisser encore un an parce qu'avec ces un an-là, tu vas me faire 4 ans supplémentaires peut-être. Mmh. Alors que si pendant un an, je te demande encore d'être à fond, peut-être que je vais te cramer. Et en fait, tu vois, donc il y a une logique. Mais
t'es citron à un orange, on te presse. On te presse, on te paye bien, très bien, et on te presse. Mais je n'en veux pas aux dirigeants ou aux entraîneurs. Après, c'est toi, en tant que joueur, à expliquer les choses.
Quand j'ai arrêté ma carrière, j'avais du mal à me poser devant les matchs le week-end. Ouais, le samedi à la maison, tout ça. C'était un peu la même sensation que j'avais quand j'étais blessé. Une sorte de frustration, tout ça. Un peu.
D'accord.
Ça, je pense, ça arrive un peu à tout le monde, enfin, à la plupart des footos qui arrêtent. Mais encore une fois, non, j'ai eu la chance d'avoir une bonne transition. Et moi, en plus... Après, il y en a qui vont se dire, bon, il a fait le parcours classique, coach, management, consultant, tout ça. Fait, non, mais moi, j'aime vraiment ça, en fait.
Ouais, non, c'est ça.
J'en parle avec des potes à moi, qui sont des anciens joueurs, qui ne sont pas du tout dans le foot, et qui me disent, non, mais toi, c'est bon, toi, on sait. Toi, t'aimes trop le foot. Moi, depuis tout petit, je suis un bousier de football. Et pour le coup, pour moi, c'est une voie naturelle. Et j'ai eu la chance que ça s'est mis en place tranquillement. Et encore une fois, je me répète, mais le Covid a fait que ça m'a vachement aidé.
Ouais.
Sinon, je pense que vraiment, je me serais cassé la figure. Comme certains. Tu sais, il y en a. On n'en parle pas trop, mais dépression, un divorce. On se fout en l'air, on sait pas quoi faire. Pauvreté. Ça, on en parle pas beaucoup. Hein. Pauvreté.
Dette,
Dette, ça c'est réel. Hein. Addiction. Et là, c'est on parle de seconde mort, c'est presque la vraie mort même, donc c'est très compliqué. Donc voilà, pour résumer un peu le tout, c'est prendre conscience qu'on est plus que des footballeurs, en fait, à la fin.
Et comment s'est fait ton choix là, entre les différentes, enfin, même si on pourrait dire que tu fais pas le choix finalement parce que tu t'embrasses beaucoup de possibilités, comment s'est fait ton choix et ton cheminement? Est-ce que c'est par les tests que tu as fait, du coup, qui t'ont poussé à se dire en fait finalement j'ai plutôt des qualités selon les tests qui me poussent à être manager, ou finalement tu veux tester plein de choses et c'est en fonction de ton feeling que tu vas te diriger vers...
C'est marrant parce que je me suis toujours dit, quoi qu'il arrive, après ma carrière je reste dans le foot. Et là, le comble, c'est que je fais tout, en fait, littéralement. Parce que je suis un peu à la télé, je coach donc les jeunes à Versailles, je suis dans le management. Et en faisant ces genres de tests, j'ai pu un peu affiner ma personnalité. Voilà, en plus, moi, je suis une personne comme Edouard disait, j'ai pas de grosses qualités, même au niveau de la personnalité, j'ai pas de défauts. Donc, je suis quelqu'un de très average, très moyen. Ma force, c'est que.
Je suis pas d'accord avec ça.
Un peu.
Mais on en parlera par ailleurs.
Je pense qu'un peu comme Edouard, je pense qu'on arrive à bien s'adapter aux situations, je pense. Le fait d'avoir voyagé, tout ça.
Mais ça, c'est pas
average. Moi, j'ai un gros pouvoir d'adaptabilité.
Tu me permets de raconter l'anecdote avec Seferin à Rome?
Ouais, mais ça c'est rien, ça.
Mais c'est pas rien. Non, tu vois, c'est là que je suis pas d'accord avec le terme average. C'est-à-dire que l'intelligence sociale, c'est une qualité qui est très inégale entre les gens. Et je trouve que les gens qui font preuve de beaucoup d'intelligence sociale, en général, sont ceux qui vont le plus loin. Parce qu'en fait, on est des êtres sociaux. Et donc, il y a ce fameux match où on était l'année dernière à Rome. À Rome. Et Seferin est le mec forcément très sollicité, ceci, cela. Et puis en plus, bon, t'as toujours un décorum, les mecs qui sont en costume, il y a 20 mecs en costume derrière, etc. Qui allait se présenter, tu vois? Voilà, moi je suis un ancien joueur, j'ai été très sensible à ce que vous proposez dans le cadre du MIP, il lui a serré la main, derrière le MIP c'est compliqué de rentrer, etc., il y a un process, donc c'est pas ça qui l'a fait rentrer, mais juste le fait de se dire, moi j'ai aucun problème à aller voir aujourd'hui le président de l'UEFA me présenter et tu vois, formuler ce que je vais faire. Je pense que tu parlais d'average, je pense que la moyenne des joueurs, ils ne le font pas.
Ou des personnes.
Peut-être. Ouais, tu vois, la moyenne des personnes.
Ouais, après, c'est naturel. Après, je pense que c'est une force alors que j'ai en moi, je pense. C'est ce pouvoir d'adaptabilité, de savoir un peu mettre mes priorités en place.
Mais on revient encore à ce qu'on disait. Je pense que le joueur de foot, parce que c'est le sujet, il doit se connaître en fait. Ouais. Il doit se connaître lui-même. Il doit savoir qui il est. Et la chance que j'ai eue encore une fois, Covid, tout ça, et c'est ces fameux tests que j'ai pu effectuer et savoir mes atouts et foncer en fait.
Et ce que tu dis, ça me fait penser à ce que tu évoquais tout à l'heure quand on avait la discussion sur Ballon Macor des skills des footballeurs. Mais ce que tu évoques là, j'en avais parlé quand on avait fait le podcast sur le fait de se connaître. C'est aussi l'une en général des skills très propres aux anciens professionnels. Moi, dans mes équipes, j'ai deux mecs qui sont anciens joueurs de foot pro. Et je disais, ça fait partie des meilleurs collaborateurs que j'ai jamais eu parce que déjà, il y a une profonde connaissance de ce à quoi ils sont bons et ils sont pas bons. Et l'autre qualité qui est hyper rare, c'est la capacité à entendre et à processer la critique. C'est-à-dire qu'en général, un mec à qui tu fais une remarque négative, c'est position de défense. Et moi,
ça c'est grâce aux journalistes.
Hein? Non mais, ouais, non, mais
c'est grâce aux journalistes.
Ça c'est grâce
aux
journalistes.
Tu leur en mis plein la gueule.
Merci à vous. Quand j'ai une critique à faire à ces mecs en question qui sont d'anciens footballeurs, mais qui se posent, ils réfléchissent. S'ils sont pas d'accord, ils le formulent et ils expliquent pourquoi avec des arguments. Mais parfois ils disent ok, t'as raison. Et derrière, changement.
Le lendemain, ils switchent.
Exactement. Ouais. Et c'est immédiat. Il y a pas de ok, je vais réfléchir. Et ça, je pense que c'est lié aux qualités que tu développes quand t'es joueur de football professionnel ou sportif professionnel.
Tu te blindes un peu. Après, dans ce que tu disais, il faut se connaître. Mais se connaître, ça suffit pas parce que tout le monde se connaît. Toi, tu te connais. Tu te connais. Tout le monde se connaît. Par contre, il faut s'accepter.
Ouais.
Au fond, nous, c'est surtout ça. Parce que se connaître. Quand t'es tout seul face à ta glace, tu sais tes défauts, tu sais tes qualités.
Attention,
tu sais
il y en a qui sont dans le déni des fois aussi, justement par rapport au regard des autres.
D'où l'acceptation. L'acceptation pour éviter le déni. Ouais, je sais pas faire ça, je sais pas faire ça. Tu dis que t'es average, tu acceptes d'être average, mais c'est une force. Tu sais pas de jouer. Tu vois, t'essaies pas de jouer un rôle. Moi aussi, je suis average. On est tous les deux average. Mais par contre, quand on sort, on est serein. Il y en a d'autres qui sont vraiment, ils sont pas average, ils sont low, mais ils paraissent. Tu vois, ils jouent la comédie. Tu vois. Donc c'est honnête, c'est s'accepter et puis après, pas faire des choses qu'on ne sait pas faire, mais pas s'interdire de les faire en essayant de travailler sur ces lacunes. Donc grosso modo, c'est un peu ça. Donc reconversion, quand tu seras là, quand tu seras à mon truc dans 11 ans, donc du coup, à la tête de l'UFA. mais t'as fait ce qu'il fallait, c'est se présenter. Ce que t'as fait avec Séverine, c'est exactement ce qu'il faut faire. Pourquoi? Parce que nous, les footballeurs, on a tellement pris l'habitude à ce qu'on vienne à nous. On vient à nous.
Exactement.
Tu vois, on vient à nous, on les sollicitations.
Exactement.
Il faut faire l'inverse. Et quand tu fais l'inverse, tu choques les gens. Putain, c'est génial. Quand t'appelles les gens par toi-même, parce que c'est toujours une tierce personne qui appelle. Oui, je vous appelle de la part de Ricardo Fati. Là, c'est bonjour, c'est Ricardo Fati. Ah oui, d'accord. Et là, t'arrives. Il faut être acteur.
Ouais.
Tu deviens acteur de ce que tu fais. C'est pour ça, entrepreneur, quand Matt te dit entrepreneur, oui, t'es entrepreneur parce que t'entreprends les choses. Tu fais les choses. Donc, on peut dire.
En fait, moi, dans ma tête, entrepreneur, parce que je suis pas au max, en fait. Mais par quoi je le suis.
Exactement. Voilà. T'entreprends les choses. Et ben, t'es un entrepreneur.
Ouais.
Tu vois? Donc, là, c'est tout simplement.
Ah non, mais pour aller sur notre. Parce qu'on est pressé par monsieur Hachimi. On doit rendre l'antenne.
Ouais.
En fait, je crois que le point, c'est comment est-ce que vous avez réussi à faire naturellement. C'est-à-dire, dans votre style respectif, comment tu arrives à l'inculquer à la masse des footballeurs parce que manifestement, c'est pas aussi simple pour tout le monde de préparer son après-carrière et surtout de le réussir. Comment tu peux avoir de l'influence là-dedans?
Pour le coup, ça doit venir d'en haut. Non c'est tout. Hein. Ça doit venir d'en haut. La prévention, maintenant, si ça rend d'une oreille, ça sort d'une autre, c'est compliqué, mais il faut des choses concrètes. Justement, on parlait d'éducation financière. Pourquoi pas mettre en place des leçons aux joueurs, leur mettre, entre guillemets, hein, dans les pattes des vrais conseillers qui sont là pour leur intérêt. D'ailleurs, en Belgique, moi j'ai un an en Belgique, par rapport déjà aux financiers, il y a un système qui s'appelle l'assurance groupe. Ça veut dire que de ton salaire, tu as déjà les impôts, plus 20% qui va dans un fonds de pension que tu récupères en fin de carrière. Déjà, c'est bien déjà. Ça, c'est concret déjà.
Et ça veut dire que
tu fais c'est un pécule, beaucoup plus important que fait en France.
Et l'autorité qu'il met en place, c'est quoi? C'est au niveau de la Ligue ou c'est...
C'est l'État.
C'est au niveau de l'État. Et c'est la Ligue qui
chapeaute le truc.
Qui chapeaute. Et à la fin, donc, tu fais 10 ans en Belgique, tu sors avec un vrai pactole. Donc derrière, tu as quand même quelque chose pour avancer.
Sinon, on peut mettre en place un organisme, on peut créer un truc, Alternative Football, et on va essayer de chapeauter. On peut chapeauter un peu sur la reconversion. Je vois que ça te tient à cœur.
Non, mais vraiment? Non, parce que.
aussi de manière très égoïste, je pense que les qualités des anciens sportifs, et pas seulement les footballeurs, sont complètement inexploitées par l'entreprise.
Exactement.
Par le monde de l'entreprise.
Exactement.
Et je pense que tu as un vivier dans lequel tu tapes pas avec un panel de skills qui serait hyper utile pour plein de boîtes, pas la mienne. Hein, mais, et en fait, je pense que la difficulté, c'est l'autorité. C'est qui peut prendre la main sur ça. A priori, ça devrait être le NFP. Je ne les connais pas suffisamment pour dire ce qu'ils font de bien ou de mal. Mais force est de constater que... On entend plus souvent encore, je trouve, d'exemples d'anciens sportifs, j'élargis à l'ensemble des sports, qui ont eu des difficultés avec l'après-carrière, plutôt que de bons exemples comme les vôtres.
Sinon, on dirait pas petite mort.
Tu vois,
l'expression serait jamais arrivée s'il y avait eu que des exemples positifs.
Mais en fait, je pense qu'Edouard, il a trop bien vécu. Ouais.
C'est
l'exception qui confirme la règle.
Je vois ce que vous voulez dire parce que nous, la différence, c'est que nous, on prend notre retraite à 34-35 ans. Donc, on voit à 36 ans, on est un peu triste. La plupart des gens qui vont à la retraite 76-68, 2 ans, 3 ans plus tard, les mecs, ils se font chier aussi. Hein. C'est une petite mort aussi pour eux. Donc, tu vois, c'est juste ce qui se passe après. Le concept de petite mort, c'est qu'est-ce que je fais après.
Oui, mais nous, à la retraite, on est censé avoir une retraite. On est censé avoir, du coup, touché un salaire et d'avoir eu une retraite qui est l'équivalent de ce qu'on a gagné. Il n'y a pas un différentiel énorme comme vous entre ce que vous avez gagné.
Mais tu sais que très souvent, la problématique, c'est même pas l'argent. Pour certains,
c'est
pas l'argent, c'est l'ennui.
C'est
l'ennui. Quand tu as 70 balais, quand tu auras 70 ans, je viendrai te voir. Alors, Max, qu'est-ce que tu fais? J'arrose mes plantes.
Non, mais j'arroserai pas mes plantes. Moi, je sais que je vais vouloir continuer à travailler.
Exactement.
Parce que le métier que je fais me demande est moins basé sur le physique et sur ma performance athlétique. Donc, je pourrais le continuer jusqu'à, j'espère, 70, 80, j'en sais rien. Mais
Exactement. C'est juste savoir qu'à un moment donné, la retraite, ça s'anticipe. Qu'est-ce que je ferai après? Qu'est-ce que j'ai envie de faire après? Et voilà. Donc, il y en a qui ont plein d'argent. Totti, il est plein d'argent. Ouais. Même s'il a eu un divorce, il est plein d'argent, mais il s'ennuie. Parce que oui, il fait du foot, mais bon, à un moment donné, le foot, il n'y a pas que du foot. Donc, qu'est-ce que tu fais après? C'est quoi tes centres d'intérêt? Il y en a qui aiment peindre, il y en a qui aiment faire autre chose. Voilà, c'est trouver tes centres d'intérêt. Donc, être curieux pendant ta carrière, enfin, pendant ta vie, d'être toujours curieux, ne pas s'interdire d'aimer autre chose, quoi. Enfin, moi, je pense que c'est ça.
Je suis d'accord. Mais ça, je pense que ça s'inculque.
Aussi. Ouais. Ça s'inculque d'être curieux? Non, ouais. On l'a en nous, après, il faut le garder.
On pousse pas un footballeur à être curieux. On pousse un footballeur à être footballeur en centre de formation, on pousse à être. Bah, tu vois, on te l'a dit, tu aurais pu, toi, par toi-même, si tu n'avais pas eu une aussi forte personnalité, aussi indépendante, on t'aurait dit que tu es un fumiste, bah, tu aurais peut-être voulu changer.
Tu es en train de dire qu'il faut enlever les centres de formation. C'est ça que vous êtes en train de dire.
Non, je suis en train de...
Il faut mieux les utiliser, peut-être.
Il faut mieux les utiliser. Ouais. Tu as plein de choses à faire dans les centres de formation.
Prochain sujet, ça va être. Les centres de formation.
On l'avait vu, mais on en avait parlé avec le Fonds d'Action du Foot qui ouvre avec des séances de théâtre, de l'opéra, qui emmène les joueurs voir autre chose que du foot, tu vois. Parce qu'en fait, ils seront encore meilleurs. Tu seras meilleur si on t'ouvre l'esprit, si on t'apprend. Ouais. Parce que même si tu sais que, je sais pas, si on te donne des cours en finance et que le club te montre qu'il s'intéresse à toi, pas juste en tant que footballeur, mais aussi en tant qu'être humain, je pense que l'être humain derrière voudra encore plus donner à son club et rendre encore plus.
D'ailleurs, il y a un des profs à l'UEFA, après, bon, c'est pas prouvé scientifiquement, mais qui disait que quand il y a un footballeur qui est pris, on va dire, intellectuellement à autre chose que du foot, il est plus performant sur le terrain. Je sais qu'il y a, par exemple, Olivier Giroud, qui joue encore. Il est aussi dans quelques formations UEFA. Il est vraiment investi sur d'autres choses au niveau business, et aussi au niveau aussi,
stimulé
académique.
Par ailleurs,
Il est stimulé par ailleurs. Et sur le terrain, il est encore performant. Ouais. Donc, je pense qu'il y a l'un n'interdit pas l'autre.
OK. Du coup, seconde mort ou... seconde mort. C'est la conclusion. Seconde mort.
Bon, nous, on est plutôt vivants, nous, Edouard.
Petite mort ou seconde vie.
Seconde naissance.
Ouais. Seconde naissance, je valide ça.
C'est une nouvelle vie. Tout simplement.
Okay. Et ce sera le mot de la fin. Messieurs, merci beaucoup.
Merci à vous, c'était top. Hein.
Non, c'était.
Franchement, merci à vous pour l'invitation. C'est un honneur d'être derrière ce micro. Moi qui vous écoute vraiment assidûment.
On écoute ton podcast pour
Ballon Main Corps. Ballon Main Corps, voilà.
On regarde sur YouTube aussi.
Sur YouTube, c'est mieux. Voilà. Comme ça, il y a les images, il y a les expressions.
Toutes les semaines, du coup.
Chaque semaine, avec Quentin Westberg qui joue à Atlanta, Sébastien Bassong, retraité aussi, qui a connu aussi quelques turbulences aussi dans sa après-carrière, qui est bien revenu. Donc voilà, nous aussi, on prêche la bonne parole au niveau QI foot, au niveau tout ce qui touche autour du foot. Donc allez voir ça.
N'hésitez pas. vous abonner du coup à la chaîne YouTube et à vous abonner aussi à Alternative Football si vous êtes sur Spotify, sur Apple Podcasts, sur Deezer, ouais, sur toutes les plateformes, à nous laisser aussi une petite note, un petit 5 étoiles, ça nous fait du bien.
Et des recommandations.
Et des recommandations aussi sur notre... vous pouvez nous suivre sur Instagram grâce à Rémi, sur Twitter et sur LinkedIn. Et quelques surprises à venir bientôt.
Wow.
Wow, cheesy. Merci à tous.
Merci ciao, ciao. Les gars.
Alternative Football. Alternative Football. Alternative Football.
Beaucoup en parlent.
On parle de l'effectif, de la gestion de l'effectif.
Comment ils jouent les deux contre les gars.
Mais peu le connaissent vraiment.
Parce que tu sais que malheureusement, il n'y a pas que le foot dans la vie.
Alternative Football.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.